Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 12 mars 2024. 34e ou 35e édition, selon les compteurs, du MIPIM. On est ravis d'être avec vous. Il est exactement 9h49, dans un lieu magnifique, au Salon des Ambassadeurs, où nous avons déposé notre plateau et on va faire le tour de la planète immobilière. Voilà, pour ce MIPIM, beaucoup, beaucoup de sujets, notamment autour du logement, vont être évoqués. J'ai l'habitude de le rencontrer régulièrement pour faire le point sur et prendre le pouls de la politique du logement et de l'urbanité en général. Il est le maire de Mennecy, vice-président de la région en charge du logement, président de Grand Paris Aménagement, ainsi que de l'établissement public d'Île-de-France. Bonjour Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Voilà, avec un temps magnifique, on a eu de la chance. Hein.
Il pleuvait
beaucoup hier.
Comme souvent à Cannes, du soleil. Pas très chaud, mais du soleil.
Merci en tout cas d'être avec nous Jean-Philippe. Gros agenda, tout à l'heure, vers 11h, dans une bonne heure. Le ministre Guillaume Casbarian, tout nouvellement désigné à la tête du logement, on verra évidemment les contours de sa politique, va couper le ruban. C'est une symbolique très très forte. Vous êtes ici avec la tante du Grand Paris. Hein. Il y a tout un ensemble d'acteurs institutionnels de la région Île-de-France qui est avec vous. Vous représentez Grand Paris Aménagement. Vous avez cette casquette, entre autres. Quand le ministre va venir vous voir, parce que vous allez le rencontrer dans pas longtemps, qu'est-ce que vous attendez qu'il vous dise ?
Déjà, on va le recevoir dans le cadre de Grand Paris Aménagement, puisqu'on annonce toute une série d'adaptations sur les règlements d'intervention et de fonctionnement de l'établissement pour essayer de faciliter la production de logements et d'accompagner nos partenaires promoteurs, bailleurs sociaux, investisseurs pour relancer l'acte de construire, relancer le logement. Et donc le ministre vient dans ce cadre-là. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'en tant que ministre, il arrive à impacter une politique du logement, impacter une politique du logement, ça veut dire gagner des arbitrages par rapport à ses collègues, par rapport à Bercy. Ça veut dire arriver à décrisper les rouages. Ça veut dire travailler non seulement sur l'offre. Le Premier ministre et lui ont parlé de l'offre, de l'offre, de l'offre, ce qui est une chose. Mais on a une crise de l'offre, on a une crise de la demande, on a une crise du coût de la production. Au sein de l'offre, il y a un sujet qui n'est jamais adopté, examiné. C'est la question de l'intérêt et de l'acceptabilité à construire au niveau local. Et parler de l'offre sans parler de ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas complet. Et moi, ce que j'attends du ministre, c'est qu'il arrive à se saisir de l'ensemble de ce sujet de manière systémique, de manière transversale, et qu'il arrive à peser au sein du gouvernement pour débloquer le logement. Quand on dit que le logement vit une crise sans précédent, c'est pas quelque chose d'anodin. La crise du logement, selon la FFB, c'est entre 100 à 150 000 destructions d'emplois dans le bâtiment cette année. Autant sur les cols blancs, c'est-à-dire les bureaux d'études, les promoteurs, les notaires. Donc c'est quelque chose qui est lourd. On est un pays où le taux de croissance n'est pas celui attendu. Le gouvernement revoit aujourd'hui ses projections. Et toute la question du logement contribue à ça. Et puis au-delà de ça, le logement, c'est quel cadre de vie, quelle dignité de vie, quelle possibilité d'émancipation on offre aux Français. Et quand on est dans un pays où on a plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées, où on a un poids du coût du logement qui impacte de plus en plus les familles et qui est devenu un phénomène de dissociation du pays, c'est-à-dire que c'est devenu un phénomène d'éloignement entre les classes aisées qui peuvent se loger, qui continue à garder cette capacité-là, et les classes populaires et moyennes qui souffrent de plus en plus de la cherté du logement, eh bien c'est une politique systémique qui doit être mise en place. Alors moi, je ne vais faire aucun procès d'intention à qui que ce soit. Le ministre vient d'être nommé. Ce que j'espère, c'est qu'il arrivera à impacter une véritable politique du logement, chose qu'attendent tous les professionnels du secteur depuis des années.
Effectivement, les problématiques sont les suivantes. Est-ce que ce ministre-là, c'est le cinquième, hein, vous avez compté, 4 gouvernements, 2 mandats présidentiels, 5 ministres du logement.
Surtout le troisième en moins de 2 ans.
Voilà.
Parce qu'il y a eu 2 ministres sur un premier quinquennat,
absolument,
ce qui est une durée de vie moyenne d'un ministre sous la Ve République, 18 mois. Donc De Normandie et Wargon ont été des ministres qui ont duré plus que la moyenne. Mais là, c'est vrai qu'on a eu 3 ministres en très peu de temps, entre Olivier Klein, Patrice Vergriete et lui.
Alors, je vais faire mon journaliste, je ne peux pas résister. Faisons un peu de politique. Je comprends qu'en tant que président de Grand Paris Aménagement, vous puissiez rester positif et constructif. C'est votre mission, c'est votre mission. Mais vous êtes quand même d'abord politique, pardonnez-moi. Vous êtes membre de l'UDI, je peux le dire, hein, c'est connu. Vous êtes aujourd'hui, vous faites un binôme avec Valérie Pécresse de façon très efficace. Il faut le reconnaître, puisque vous avez mené des projets avec des victoires évidentes, très concrètes. Alors moi, je vous connais bien, je sais que concrètement, non seulement vous maîtrisez le dossier, mais en plus, vous agissez au quotidien. Moi, je vous pose une simple question. Vous seriez aux affaires aujourd'hui, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Quelle est la première chose que vous feriez pour sortir de l'ornière de la crise du logement?
Un pacte de confiance avec les communes pour relancer l'acte de construire.
Exemple?
Exemple, c'est de travailler sur l'acceptabilité de la construction locale, c'est de garantir un minimum de services publics ou un plus de services publics aux communes qui acceptent de construire et donc d'accueillir de nouveaux habitants. C'est retravailler sur la structure des recettes des communes pour que celles qui accueillent de nouveaux habitants aient des recettes pérennes qui soient garanties. La réalité, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Si on ne travaille pas sur l'acceptabilité de l'acte de construire au niveau local, et souvent on accuse les maires, mais les maires ne sont que les représentants des Français. Donc, faut pas accuser les Français. Faut pas accuser les Français.
Vous avez raison.
Et si on ne travaille pas là-dessus, tout ce qu'on fera peut être utile, mais ce sera inefficient parce qu'on n'aura pas traité le nœud, le cœur du problème.
Vous avez absolument raison. Absolument raison. C'est très important ce qu'on dit là, mesdames et messieurs. Vous qui nous écoutez, vous le savez, les problématiques de construction, c'est lié aussi au fait que les personnes ne veulent plus voir de grues en face de chez eux. C'est un peu une ironie du sort, puisque les mêmes vous enjoignent aussi le lendemain d'avoir une place à la crèche et d'avoir des équipements. Enfin, on va passer là-dessus, c'est très très français. Deuxième point, vous avez parlé de ça, très important, pour relancer la construction. Mais sur l'immobilier géré, sur l'immobilier ancien, sur la rénovation énergétique, reverriez-vous par exemple ou réinstauriez-vous un dispositif comme le Pinel, par exemple, dont il n'était pas forcément nécessaire d'y mettre un terme tout de suite? Il a quand même beaucoup aidé la construction. Le statut du bailleur privé, par exemple, dont on parle beaucoup. Des dispositifs aujourd'hui d'accompagnement. Je rappelle juste un chiffre. 62% des Français sont logés par des petits propriétaires bailleurs qui seraient éligibles, c'est le même français, au logement social. Que feriez-vous aujourd'hui? Comment vous adresseriez-vous, vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément, au marché?
Il y a toute une série de choses qui peuvent être faites, dont certaines ne coûtent strictement rien. Je crois que déjà, on a besoin d'une stabilité, d'une pause normative. On a la question sur le calendrier des DPE, et on voit qu'on se rend compte, le gouvernement se rend compte que ça ne tourne pas, donc on est en train de chercher des arguties pour décaler un petit peu le système. Mais le calendrier des DPE, les RE, les réglementations énergétiques à 2028 et 2031, qui ne tournent pas économiquement, et puis qui partent sur des choix techniques qui peuvent être discutés et réinterrogés. On a besoin d'avoir une stabilité là-dessus parce que la situation économique ne permet pas de tenir ces calendriers-là sous ces normes-là et qu'on va aggraver la situation. Donc stabilité normative d'une part. Deuxième chose, la question du Pinel. Moi, à titre personnel, je pense que le Pinel, qui était très encadré dans sa dernière version d'un point de vue social, était une bonne chose et que quand on est en période de crise, c'est pas forcément le moment d'aller supprimer des outils qui soutiennent la production, y compris si on peut interroger le dispositif.
Vous ne l'auriez pas
mais
fait.
Mais je pense que ça n'était pas le moment. Si j'étais en situation et que c'était mes arbitrages, je ne l'aurais pas fait. Quand ça a été annoncé, je ne suis pas convaincu que ce soit le ministre du Logement de l'époque qui a gagné ses arbitrages par rapport à Bercy, si on
c'est
doit
clair.
Être tout à fait clair.
Clair.
Et puis, dernière chose, la question du statut du bailleur privé, c'est une évidence. C'est demandé par tous les professionnels du secteur depuis des années. C'est tout simplement faire que... Ça revient à quoi pour vos auditeurs? C'est permettre que quelqu'un qui investit dans un 2 pièces ou un 3 pièces pour pouvoir se faire un complément de revenu ou son complément de retraite, qui est un petit propriétaire, qui n'est pas une... c'est pas la World Company, puisse gagner mieux financièrement que s'il investit le même logement pour faire du Airbnb et louer à des touristes américains. Parce qu'on est aujourd'hui dans ce paradoxe. Quand vous êtes dans des zones tendues, eh bien vous avez matériellement plus intérêt à louer à des touristes étrangers qu'à louer à des familles françaises.
Alors, aux questions, très bien, ça va être très clair. Vous avez répondu à cette question. Vous n'auriez pas remplacé le dispositif Pinel, vous l'auriez pérennisé. Est-ce que le dispositif, je vais enfoncer le clou, de type fiscal, vous continueriez, vous, en tant que ministre du Logement, à le faire perdurer? Et pensez-vous, finalement, qu'il faut, quelque part, accompagner la politique de la construction avec ces leviers fiscaux?
Est-ce qu'on considère que le logement est une priorité, en dehors des mots ? Si on considère que c'est une priorité, on doit mettre les moyens en face. Vous voyez, je prends un exemple. Je sors d'un entretien avec la ministre allemande du logement. L'Allemagne investit pour le logement. Ils connaissent la même crise que nous, mais ils font deux choses qu'on ne fait pas. Ils débloquent des crédits en investissement et ils allègent les taxes. C'est-à-dire, d'une part, il y a une politique fiscale et de l'autre, il y a une politique interventionniste.
Et qui incite,
donc, si
qui
on
incite
considère,
à l'investissement.
Si on considère que le logement est une priorité, et je considère que le logement est une priorité, certes, l'État n'a pas la possibilité de faire tourner la planche à billets surtout, mais il y a des secteurs qui doivent être prioritaires. Et s'ils sont prioritaires, on doit mettre les moyens. Moi, je considère que le logement est un secteur prioritaire et que s'il y a des efforts financiers, on doit les faire sur ce secteur-là, soit par investissement, soit par mesure fiscale.
Vous avez abordé tout à l'heure la question de la pauvreté, de la précarité. Ça n'a échappé à personne, comme chaque année, c'est une tradition depuis 70 ans, puisqu'il y a 70 ans, quasiment jour pour jour, où l'abbé Pierre lançait son appel, c'était le 1er février 1954. Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, est venu sur notre plateau pour nous donner ses résultats. Alors, non seulement ça ne s'arrange pas, mais on peut dire que le nombre de SDF a cru de façon exponentielle sur les 5 dernières années, que la pauvreté et la relégation sociale liée au logement, dont le marqueur finalement est plus défini comme il aurait dû l'être peut-être dans ce cadre-là, puisque pour rappeler quand même que le logement est un marqueur social puissant, on voit que les chiffres sont catastrophiques. Comment, je m'adresse plutôt aux politiques avec une vision peut-être un peu plus globale, peut-être plus philosophique, comment Jean-Philippe, on en est arrivé là. Comment on a pu arriver, Jean-Philippe, à faire en sorte que 3000 enfants dorment dans les rues, en plein hiver, à Paris. Alors, effectivement, il y a des personnes sans papier. Bon, OK. Comment on a pu tripler le nombre de SDF ? Comment on a pu arriver à ce niveau-là, en France, à notre époque, au XXIe siècle, quand on est un homme politique comme vous, engagé, d'une tradition en plus familiale, politique très engagée dans la cité ? Ça doit vous briser le cœur, vous désespérer de voir ça.
La misère, la relégation, c'est des choses qui brisent le cœur. C'est ce qui fait aussi qu'on s'engage. Il y avait eu cette promesse du président de la République qui avait été faite pour le coup de manière un peu inconsidérée quand il avait été élu sur l'euphorie de l'élection, de dire qu'il n'y aura plus de SDF à la fin de... Je ne sais plus si c'était la fin de l'année ou la fin de mon mandat, mais on en est très loin. On voit que ça a augmenté, on voit que la pauvreté a augmenté. Et des phénomènes, malheureusement, d'exclusion de SDF, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Le problème, c'est d'essayer de le limiter au maximum. Le phénomène d'accroissement de la pauvreté de locataires, de propriétaires, il augmente. Et fondamentalement, on n'a plus de grande politique de logement depuis des années dans ce pays. On considère que les choses vont se faire par elles-mêmes. On considère que dans un État libéral, les choses se feront par elles-mêmes. Moi, je suis d'une famille politique qui est plutôt libérale. Je pense que sur le logement, on ne peut pas être totalement libéral.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je pense que il me semble vous avoir déjà posé la question que vous seriez favorable à une loi de programmation et un grand plan, finalement, comme on l'avait connu dans les années 70, sur l'aménagement du territoire et sur le logement.
Ça et entamer une politique de plafonnement de cession des prix du foncier. Parce que quand on parle du coût de livraison du foncier, l'un des seuls facteurs sur lesquels on peut jouer, ou en tout cas on peut jouer le plus facilement, c'est le prix du foncier. Et quand on voit un certain nombre de plus-values qui peuvent être faites, la question n'est pas d'empêcher la plus-value, elle est d'éviter la plus-value indécente. Voilà. En fait, ne coûterait rien à l'État, ça peut même lui rapporter de l'argent.
Si vous permettez, je peux utiliser le mot, c'est empêcher la spéculation.
Bien sûr.
Bien sûr, on peut le dire. Justement, vous qui êtes patron de Grand Paris Aménagement et de l'établissement public foncier, en tant que président, vous veillez à justement ce que le foncier public soit totalement maîtrisé.
Mais pour le coup, c'est des outils de maîtrise du foncier public.
Attends, ouais.
Dans un cadre réglementaire et légal qui est encore insuffisant, mais l'EPF, établissement public foncier d'État, quand il achète du terrain, il le revend à prix coûtant, c'est-à-dire le prix d'achat majoré des frais de conservation et de procédure. Et Grand Paris Aménagement ne vend aucun terrain aux enchères. C'est-à-dire que c'est un établissement public qui ne peut pas vendre ou fonctionner à perte parce qu'on a des salariés
et on a une structure à faire tourner.
Mais les marges de GPA, c'est entre moins 0,5 et plus 0,5. Et donc on vend au prix minimum pour équilibrer nos bilans, mais on ne met plus aux enchères et on fait des consultations restreintes pour limiter les coûts pour les promoteurs et le dumping financier.
C'est exactement, j'allais dire, ce qui peut s'apparenter à une forme de plan qu'on a connue dans les années 70. On appelait ça la politique de peuplement, enfin, peu importe la terminologie, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le sujet sera là. Juste très rapidement, il nous reste une minute. Faut-il encore espérer d'Emmanuel Macron un sursaut de prise de conscience sur la crise, sur la déflagration sociale qui frappe le logement dans ce pays ?
Je l'espère. Moi, je suis un éternel optimiste, sinon je ne ferais pas de politique. La réalité, c'est que l'ampleur de la crise du logement, elle n'a pas été anticipée. Et au-delà des mots, elle n'a été, en tout cas sur les réponses et les actes, pas prise en considération au niveau que cela nécessite. Il reste 3 ans de mandat.
C'est très clair. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Jean-Philippe Dugoin-Clément, merci. Vous êtes le grand patron de Grand Paris Aménagement, président de Grand Paris Aménagement, président de l'établissement public foncier d'Île-de-France, vice-président de la région et maire de Mennecy. Vous êtes chez vous, vous le savez, sur Radio Immo pour évoquer les domaines du logement. On va en parler d'ailleurs tout au long de cette journée qui promet d'être assez intense. A tout de suite.
Merci.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.